Il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, jusqu'où aller dans la dématérialisation des services publics? Ou pour poser la question autrement, quelles limites aux démarches administratives sur Internet? Le défenseur des droits avait lancé une mise en garde à ce sujet il y a 3 ans déjà. Jacques Toubon n'avait pas hésité à alerter sur les dangers d'une dématérialisation à marche forcée. 3 ans plus tard, Claire Hédon, qui lui a succédé, confirme les difficultés rencontrées par une partie des usagers. D'ailleurs, ce sujet représente à lui seul 80% des saisines du défenseur des droits. Il faut dire qu'entre-temps, le Covid est passé par là, que les démarches en ligne se sont généralisées. Or, si cela est très utile dans un certain nombre de cas, cela peut être pénalisant pour une partie de la population. Faute d'équipement, d'accès à Internet, de formation ou même du fait d'un handicap. C'est ce que tient à rappeler le dernier rapport de Claire Hédon, publié cette semaine. Un rapport qui alerte sur les dangers d'une généralisation des procédures en ligne sans accompagnement ni service adéquat. Pour en parler avec nous ce soir, Daniel Agacinski. Bonsoir.
Bonsoir.
Délégué général à la médiation du défenseur des droits. Laetitia Bernard, notre consoeur non-voyante, est avec nous également. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir.
Et Tom-Louis Teboul est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'avoir invité.
Mais je vous en prie, vous êtes responsable du développement chez Emmaüs Connect. Pour joindre nos invités, un bon vieux téléphone suffira ce soir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, direction Nancy, d'où nous appelle Alain. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Vous aviez une question, une réflexion
Oh non, j'ai une petite histoire à vous conter.
Allez-y.
Le fin septembre 2021, j'ai fait une déclaration de perte de mon permis de conduire avec une demande auprès de la NTS. Donc j'ai rempli mon dossier, j'ai acheté le timbre fiscal, j'ai envoyé la photo qu'on m'avait demandé. Tout se passait bien, mais au bout d'un mois, n'ayant pas de nouvelles, je les ai rappelés. Et on me dit qu'effectivement, il y a un petit souci avec ma pièce d'identité qui n'est pas valide. Donc je suis désolé, j'ai pas envoyé la bonne. Je m'en excuse et leur dis que je vais renvoyer l'autre. Enfin non, ce sont eux qui me disent on va rectifier ça, on vous envoie sur votre dossier, hein, sur la page perso, on va vous aider à rectifier ce truc-là.
Attendez juste Alain, quand vous dites ils me disent, ils vous disent ou ils vous écrivent?
Là j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone.
Bravo.
Ok. Ah oui, parce que c'est pareil. Hein. Donc, qui me dit, bon, on va attendre d'avoir des nouvelles sur votre page perso. Et je n'en ai toujours pas. Un mois après, je rappelle, j'ai une autre personne à qui j'explique. Et en lui demandant de se bouger un peu, je lui dis que c'est quand même quelque chose qu'on peut rectifier facilement. Il ne s'agit jamais que d'informatique. Il me dit, non, on ne peut rien y faire. Attendez que ça se passe. Quelques semaines plus tard, j'ai une personne un peu plus efficace et un peu plus volontaire qui me donne une adresse mail et j'envoie à l'adresse mail une copie de mon écran pour prouver qu'effectivement le dossier est bloqué et le scan de mon passeport valide. Donc ça devrait s'arranger. Aussitôt, j'ai une réponse. Alors là, j'ai un mail écrit de la NTS et qui reconnaît notre service technique à connaissance de cet incident. Les corrections sont en cours pour vous permettre d'avoir de nouveau accès à la demande.
Ça progresse, hein.
Nous vous invitons à vous reconnecter régulièrement pour vérifier l'évolution de votre demande. Je me suis déjà connecté 100 fois. Quand on m'invite à me reconnecter régulièrement, c'était le 16 décembre et je me suis connecté avant que vous me rappeliez. Il n'y a rien qui a bougé au niveau de la NTS. À aucun moment, ces gens-là ne m'ont contacté. De mon côté, j'ai contacté le défenseur des droits local à Nancy, très sympathique, très efficace, qui a contacté le CERT à Reims. On a échangé ensemble une dizaine de mails pendant, ça a duré une quinzaine de jours. Le pauvre était désespéré parce que on le chargeait de me transmettre des solutions qui ne fonctionnaient pas. Et je sais à peu près me servir d'un ordinateur. Ces gens-là du CERT auraient dû m'appeler, ils ne l'ont jamais fait et je n'ai jamais reçu aucun message de la NTS. Et je n'ai toujours pas mon permis, on est mi-février.
Merci Alain pour cette histoire. Je suis obligé de vous presser, vous vouliez rajouter quelque chose? Allez. Un dernier
mot. On a vraiment affaire à des robots quoi, qui n'ont pas de réponse à donner et qui s'en foutent parce que franchement, ils ne m'ont donné aucune nouvelle.
Merci. Alain, je vais être obligé de vous presser parce que je vous dis pas, mais il y a un embouteillage total ce soir au Standard. Vous êtes extrêmement nombreux à nous appeler pour nous raconter ce genre d'histoire. En tout cas, je pense qu'on a bien compris votre affaire. J'espère que ça va finir par se résoudre. Daniel Akaczynski du délégué des défenseurs des droits, caractéristique ce genre de problème ?
Elle est totalement emblématique d'une dématérialisation qui s'accompagne d'un défaut d'accompagnement et de disponibilité pour répondre aux demandes des usagers. Et c'est pas un hasard, hein. Les difficultés avec l'ANTS, donc l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, ceux qui fabriquent les cartes d'identité, les permis de conduire, les cartes grises, ça a été au point de départ du premier rapport du Défenseur des droits en 2019 sur ce sujet parce que justement les délégués territoriaux du Défenseur étaient submergés de demandes de personnes qui rencontraient tout à fait ce type de difficultés. Alors,
et on voit que même vos délégués, ils n'y arrivent pas.
Alors, souvent, ils y arrivent. Et là, ils n'étaient pas loin d'obtenir une réponse. Mais ce qu'on remarque avec le numérique administratif, c'est que très souvent, c'est difficile de rectifier une information erronée. C'est exactement ça, l'histoire de votre auditeur. Alors que justement, comme vous le disiez, le numérique, normalement, c'est l'endroit où on peut se corriger, où on peut effacer et rectifier. Or, aujourd'hui, trop souvent, les agents publics eux-mêmes, moi, je ne veux pas jeter l'anathème sur eux. Souvent, ils, dans l'immense majorité des cas, ils veulent bien faire, mais eux-mêmes sont parfois prisonniers des logiciels qu'ils emploient et ont de ce fait du mal à traiter les demandes dès qu'elles ont une caractéristique spécifique des usagers. Et c'est ça qui aboutit à ces blocages, surtout quand en plus ils n'ont pas le temps de leur répondre et d'apporter des réponses sur le fond au dossier qu'on leur soumet.
Alors on va essayer de prendre beaucoup d'appels ce soir parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Robert, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous, c'est pas le permis de conduire, c'est la carte grise.
Oui, c'est la carte grise. Lors de la vente d'un véhicule, j'ai voulu contacter la ANTS et faire les démarches en ligne avec l'acheteur. Nous avons rencontré énormément de problèmes. À chaque fois, à la dernière étape, erreur. Au bout de 2 heures, il est parti. Hein, il m'a dit « tu continues et tu m'enverras le document quand ça sera fait ». L'histoire, elle a duré quand même une semaine, hein, puisqu'il m'a fallu contacter un numéro qui m'a dit « on va le faire manuellement ». J'ai fait aussi, comme votre auditeur, contactez-vous pour avoir la réponse. Enfin, c'est des histoires qui n'en finissent pas pour un document qui prenait à l'époque 30 minutes. Et lorsqu'on allait en sous-préfecture ou en préfecture, et je voudrais quand même rajouter que lorsque j'ai acheté le véhicule, j'ai acheté 2 véhicules à la suite et je suis passé par le garagiste, en payant 39 euros, ça se fait dans les minutes qui suivent. Je conteste donc le fait que le particulier puisse avoir les mêmes accès au logiciel que le garagiste ou le vendeur, puisque lui il le fait en 10 minutes et moi, des fois ça prend, enfin pour moi en tout cas ça a pris une semaine. D'autres personnes m'ont dit qu'ils avaient aussi des soucis. Donc il semblerait qu'il y ait une différenciation entre le professionnel et le particulier, qu'on incite plutôt le particulier à dépenser 39 euros pour faire une démarche basique, hein, parce qu'entre nous, c'est basique.
Merci beaucoup Robert pour ce témoignage. Daniel Akaczynski, sur cette question-là justement, différence professionnelle particulier, c'est quoi cette histoire ? Il y a même des partenaires privés qui montent au créneau pour aider les gens maintenant ?
Ça faisait clairement partie de ce qui était critiqué en 2019 au moment du plan préfecture nouvelle génération qui consistait à fermer des guichets pour dématérialiser les procédures et qui s'accompagnait disons d'un canal spécifique pour les professionnels notamment de l'automobile, qui est de donnait lieu à un service facturé aux usagers. Là, c'était quelque chose qui était prévu, qui était légal, qui pouvait être critiqué en tant que tel. Mais on voit des choses encore plus graves que cela, avec notamment pour ce qui s'agit des rendez-vous des personnes étrangères en préfecture qui doivent obtenir un titre de séjour. Dans un nombre important de préfectures, vous ne pouvez obtenir votre rendez-vous qu'en faisant la démarche en ligne, sur laquelle vous ne trouvez même pas de rendez-vous, parce que le peu de rendez-vous qu'il y a sont absorbés par des robots informatiques qui se débrouillent pour les revendre à des usagers en détresse face à la difficulté d'obtenir un rendez-vous. C'est symptomatique, d'après nous, d'un service public qui, dans un nombre important de cas, ne parvient plus à organiser lui-même sa propre accessibilité, au sens où il est facile d'effectuer la démarche et de le joindre auprès des usagers directement, usagers qui se retrouvent à avoir à faire appel à des aidants marchands, des aidants travailleurs sociaux ou associatifs, qui mettent une barrière finalement, qui face au service public, barrière qui ne peut être contournée que par des intermédiaires, parfois même payants. Et c'est contre cette logique-là que l'on écrit les préconisations qu'on fait pour un service public véritablement accessible.
Évidemment, parce que si on est obligé de se faire aider par des services payants, ça ne va pas du tout. Il y a des services qui ne sont pas payants, mais il y a des services, heureusement, qui viennent aider aussi ceux qui ne parviennent pas à s'en sortir. Tom-Louis Teboul, vous êtes responsable du développement chez Emmaüs Connect. Ça veut dire que vous, à Emmaüs Connect, vous aidez des personnes qui sont dans la difficulté face aux services publics ?
Oui, voilà, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en entendant les histoires, on se rend compte que le numérique peut être facile d'accès pour toute une partie de la population, mais c'est pas magique, c'est pas fantastique. Et pour plus de 35% en fait de nos concitoyens, ça va créer de véritables grandes difficultés. Hein. Mais juste avant, faut juste je vous rappelle qu'il y a une volonté d'achèvement des matérialisations des démarches administratives d'ici la fin de cette année, d'ici 2022. Et ensuite, une dématérialisation des services du quotidien. Et nous, ce qu'on constate sur le terrain, clairement, c'est qu'effectivement, les personnes en situation de précarité sont davantage exclues, puisqu'ils ne savent pas maîtriser le numérique. Et on va renforcer leur exclusion à cause de cette dématérialisation des services. Donc, concrètement, sur le terrain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va accueillir un certain nombre de personnes. Hein. On a 11 espaces de solidarité dans plus de 10 grandes villes de France. Et puis, à travers un entretien individuel, on va leur proposer un accompagnement 360 degrés autour de comment je lève le frein autour de l'équipement sur le numérique. On en parlera peut-être, mais effectivement, d'abord ça, c'est l'un des premiers coups. Comment j'ai accès au numérique. Alors, on peut parler des zones blanches, mais on peut aussi parler, en fait, de nos publics qui continuent d'aller acheter des recharges prépayées dans les bureaux de tabac qui coûtent 3 fois plus cher, et aussi comment je vais monter en compétences. Et là, on va mettre en place des parcours en fonction de votre besoin, votre envie, mais aussi de votre niveau. Et ce sont des parcours pédagogiques qui durent d'1h30 à 32h en fonction des profils. On a un peu de tout, Claire. On a des seniors, on a des jeunes, on a des demandeurs d'emploi. Et l'idée, alors bien sûr, c'est de transférer. On ne va pas réaliser les démarches administratives, on n'est pas des travailleurs sociaux, mais c'est avec notre équipe de 140 salariés et plus de 1500 bénévoles, on va en fait vous apporter de la connaissance, on va vous transférer un peu de la compétence, et puis on va aussi vous remettre un peu de la confiance, parce que c'est ça qu'on voit, et peut-être que le délégué de rapporteur des défenseurs des droits va me le confirmer, mais c'est que clairement, il y a du numérique, on détruit un peu de lien social, on détruit de l'humain, et parfois même les gens savent faire la démarche. Alors encore faut-il que les services fonctionnent, et là ce qu'on a entendu c'est que ça marchait pas, mais quand ça marche, si les gens ont peur de faire, s'ils ont peur de mal faire, et lorsque vous vous trompez lors d'une déclaration trimestrielle de revenus pour faire votre demande de RSA, on se rend bien compte tout de suite que les conséquences peuvent être catastrophiques. Donc on accompagne ces gens-là, effectivement, pour qu'ils montent en compétences et pour faire en fait du numérique une chance pour tous, parce que en réalité, si les services publics sont bien pensés, si les gens sont formés, c'est aussi une véritable opportunité.
Et puis c'est surtout que normalement c'est un droit pour tous. Je vais vous passer la parole dans un instant à Daniel Agacinski sur cette question, mais je voudrais quand même qu'on entende aussi Laetitia Bernard, parce qu'on a bien dit qu'il y avait des problèmes de formation, des problèmes d'équipement, on n'a pas encore parlé véritablement des problèmes de connexion, mais il y a les problèmes d'accès tout simplement en raison d'une situation de handicap. Laetitia, pour vous qui êtes non-voyante, j'imagine que c'est un casse-tête l'accès à certains services publics.
En fait, c'est pas que, d'ailleurs, pour les services publics, c'est valable de manière générale sur les sites internet, parce qu'ils ne sont pas forcément pensés pour être utilisés par des personnes qui ne vont pas voir nous comme on voit pas. On n'a pas la représentation globale de la page, donc on va pas voir en haut à gauche, tiens, c'est évident, faut cliquer là. Et en plus, on a une information à la fois, quelques mots à la fois. Donc, on est obligé de visiter toute la page, et dès que vous avez une photo ou un graphique qui n'est pas légendé, on sait pas de quoi il s'agit. Ce qui fait qu'au niveau des services publics, il y a à peine 40% des démarches qu'on peut faire de base, alors qu'a priori on a des ordinateurs, qu'en plus les solutions, elles existent, le code qui permet à un site d'être accessible, ça existe, simplement, c'est peut-être pas le bon terme, mais seulement on ne s'en sert pas, ils sont pas utilisés pour qu'on puisse nous-mêmes ensuite s'en servir.
Et pourtant, a priori, il y a des solutions. Je crois qu'on a en ligne Laurence de Roquefeuille, qui est la vice-présidente de l'association AUI. Bonsoir madame, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Et vous nous dites, vous, qu'il y a des solutions.
Ah, il y a des solutions. On connaît toutes les solutions. Le gouvernement a édité, depuis 2009, il édite une réglementation qui est inspirée de la réglementation internationale du web. Et maintenant, il comporte 106 critères. Et on sait très bien que si on applique ces 106 critères, les aveugles et les handicapés en général vont pouvoir accéder à Internet. Nous, dans l'association Valentin AUI, il se trouve que notre président, depuis septembre 2020, est aveugle lui-même. Il a décidé de prendre le taureau par les cornes parce qu'on a fait un constat qui est que depuis la loi de 2005, de la loi handicap de 2005, qui demandait déjà, dans son article 47, l'accessibilité des sites Internet, ça n'a pas beaucoup bougé. Et que même la Commission européenne nous classe au 19e rang des 27 pays de l'Union pour l'accessibilité de ces sites publics. À l'heure de la présidence française de l'Union européenne, je pense que c'est une honte. Voilà. Donc
il y a des solutions.
Oui. Il y a des solutions, elles existent. Donc nous, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. On mène depuis juin l'année dernière une grande campagne de lobbying. On s'est attaché les services d'une lobbyiste qui, elle d'ailleurs, est complètement passionnée par notre cause. Et on a pris notre bâton de pèlerin. On va voir les conseillers ministériels, les députés, les sénateurs. On est même la semaine dernière, pas plus tard que vendredi dernier, on est allé dans 7 quartiers généraux de campagne des candidats à l'élection présidentielle. On leur a beaucoup parlé de ce problème-là. Les solutions
existent.
Il faut les mettre en œuvre. Voilà. Et nous, voilà, on a publié un plaidoyer avec 12 propositions.
Alors on va pas rentrer, hein, Laurence de Roquefeuille, dans tous les détails, mais en tout cas ce que je comprends, et ça c'est important, Daniela Kaczynski, ça veut dire que faut prendre les choses en main, alors que normalement l'accès à un service public c'est un droit, tout simplement.
C'est exactement le point de vue, le point de départ de l'analyse du défenseur des droits, c'est de partir du droit. Et ce qu'on voit, les différentes situations que vous avez évoquées, montrent bien la multiplicité des causes qui peuvent, face à un service public numérisé, empêcher l'accès. Or, le droit, c'est pas uniquement les textes. Il n'existe concrètement que s'il y a en face un service qui est vraiment là pour le mettre en œuvre, qui vous répond vraiment et que vous arrivez vraiment à contacter. C'est ça la dimension relationnelle du service public qui est fondamentale et dont on voit bien tout ce qu'elle entraîne lorsqu'elle est perdue du fait d'un problème de communication qu'on voit avec le numérique. Et le message de ce point de vue-là du rapport, c'est de repartir du droit pour assurer cette accessibilité et de ne pas faire reculer les droits des usagers au nom de principes d'organisation, de simplification, de rationalisation et, disons-le aussi, d'économie, parce que ça ne doit pas être un motif légitime de recul des droits.
Une petite question, quand même, ce rapport n'est pas le premier. Il y en a eu un en 2019, ça c'est, ouais. C'est un nouveau rapport. Il y avait eu des préconisations, ça veut dire quoi? Que l'État n'a pas tenu compte des préconisations qui avaient été faites?
Un certain nombre d'entre elles ont été entendues.
En tout cas, Tom Luteboul nous le rappelait, on continue en tout cas dans la dématérialisation. Quasiment toutes les démarches se feront à l'avenir sur Internet.
Le propre de ce rapport de suivi, c'est justement de regarder préconisation par préconisation ce qui a été fait. Il y en a qui ont été suivis et il faut le noter. C'est important de se dire que les constatations du défenseur des droits font autorité et qu'un certain nombre de ces préconisations sont suivies. Le fait de mettre en place un accueil généraliste dans les maisons France Service, ça va dans le sens d'une préconisation qui avait été faite en 2019. Sur la formation au numérique, on recommandait que tous les jeunes soient évalués dans leurs compétences numériques au moment de la journée de défense citoyenneté. Tous les collégiens sont évalués sur les compétences numériques avec PIX aujourd'hui. Donc, il faut le dire quand on est entendu, mais il faut aussi ne pas avoir peur de se répéter lorsque les préconisations ne sont pas traduites dans les faits. Et le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas faire systématiquement les démarches aussi par une voie non numérique, le fait qu'on ne puisse pas le faire justifie qu'on réitère cette préconisation avec force et qui est au fond la principale du rapport.
Voilà, et qu'on le dise ce soir. Éléonore est au bout du fil. Bonsoir Éléonore.
Bonsoir.
On vous écoute. Vous avez eu des déboires vous aussi ?
Alors non, et je vais prendre la parole pour des gens qui ont non, et c'est pas moi. Je suis formatrice en informatique. Et j'ai en face de moi tous les jours des gens qui viennent pour apprendre et qui sont confrontés à ce que vous êtes en train de décrire, mais d'une violence que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'un mot de passe, un identifiant reçu par mail, scanné, un PDF, charger un CV sur le site du Pôle emploi, recevoir un nouveau mail, un code de sécurité sur son téléphone pour valider le mot de passe qu'on vient de rentrer, expliquer ça à des gens qui sont évidemment dans un besoin urgent de voir leur dossier et leur demande aboutir, mais qui effectivement sont très éloignés de l'écriture d'un clavier, des symboles, d'un mot de passe qui n'apparaît même pas à l'écran quand on le tape, donc on ne peut même pas vérifier qu'on a bien écrit.
Vous demander, Éléonore, dans quel cadre vous formez?
Alors, je forme des gens dans des parcours d'insertion professionnelle. Ce sont des gens qui nous sont envoyés souvent par des missions locales, le Pôle emploi. Pôle emploi qui devrait quand même réfléchir à l'accessibilité de son site, parce que j'ai en face de moi des gens qui, par exemple, travaillaient avant.
Ils allaient à l'ancienne ANPE, où ils prenaient les petites annonces sur le mur, et puis il y avait des téléphones, ils pouvaient appeler pour répondre à des annonces. Aujourd'hui, des gens qui étaient capables de trouver du travail tout seuls n'en trouvent plus parce qu'ils ne savent pas chercher une annonce sur le Pôle emploi, ils ne savent pas créer leur profil, ils ne font pas de CV, ils ne savent pas faire, ils ne peuvent pas télécharger ce fameux CV. Et puis moi, j'ai des mamans qui, l'année dernière, n'ont pas rempli la demande de bourse pour la cantine, je ne sais pas quoi, parce qu'elles n'ont pas osé demander de l'aide. Et puis moi, du coup, de formatrice, eh ben, je me retrouve à traiter des dossiers très privés, très personnels pour ces gens qui me demandent de l'aide, et je le fais pour eux.
Voilà,
et vous... à la place des gens qui, avant, aux impôts, à la CAF, à la banque, au Pôle emploi, faisaient ce travail dans leur rôle d'accueil. Et je dois le faire moi parce que je les ai avec moi tous les jours et il n'est pas question que je les laisse désemparés. Et je trouve que la vague qui nous arrive... en fait, on n'intègre pas les exclus, mais on exclut des gens qui se débrouillaient bien avant tout seuls.
Merci Éléonore pour ce témoignage qui explique parfaitement ce qui est en train de se passer. Parce que Daniela Kaczynski, ce qui est grave, c'est qu'il y a des droits qui sont perdus à cause de tout ça. Il y a des gens qui perdent le RSA, il y a des gens qui sont rayés de Pôle emploi, etc., etc.
Ce que décrit votre auditrice, c'est exactement ce qu'on a voulu exprimer dans le rapport. Parce que notamment, on l'a fait en auditionnant, en écoutant les travailleurs sociaux, les personnes directement concernées par ces ruptures de droits et par ces difficultés, qui sont des acteurs avec lesquels on est en interaction au quotidien et qui font état de ce report de charge général, ce report de charge de travail, ce report d'effort que l'administration fait de façon générale sur l'usager. Alors quand il y arrive tout seul, très bien, ça lui fait un peu plus de travail, mais il y arrive. Et quand il n'y arrive pas, soit il arrive à se faire accompagner, ce qui fait effectivement crouler sous le travail des travailleurs sociaux qui ont déjà beaucoup à faire, soit il n'y arrive pas, et dans ce cas-là, c'est exactement ce que vous dites, de la rupture de droit, de l'incapacité à toucher un RSA auquel on est éligible, un temps interminable pour toucher une retraite, ou une difficulté à rectifier une erreur qui entraîne un manque, par exemple, d'allocation au logement. Et ce sont toutes ces personnes-là qui se retrouvent des naufragés, finalement, de la dématérialisation et auxquelles on consacre des parties très spécifiques du rapport pour montrer, au-delà de ce qui concerne tout le monde et qu'on a vu au début de l'émission, les publics qui sont spécifiquement victimes, qui sont en plus ceux qui auraient le plus besoin du service public. C'est là où on porte le plus fortement notre cri d'alarme, c'est que ceux qui ont le plus besoin du service public qui les accompagne et qui leur permet d'accéder à leurs droits, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté avec le numérique et qui donc sont les plus victimes de la dématérialisation.
Voilà, c'est quand même, on marche sur la tête. Tom-Louis Teboul, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Je rappelle que vous êtes responsable du développement chez Emmaüs Connect.
Ouais, exactement. Toutes les situations en fait que vous décrivez, on le constate nous tous les jours sur le terrain. Et c'est vrai que, alors, outre le fait que ça touche tout un pan de la population, évidemment, toujours les plus exclus, qui sont exclus davantage, et ça renforce des personnes qui n'étaient pas exclues, qui maintenant le sont, on voit bien que la première porte d'entrée, c'est l'adresse mail. Et nous, il y a vraiment des personnes qui se retrouvent effectivement sans emploi, qui doivent s'inscrire à Pôle emploi, et rien que ça, rien que cette barrière-là, eh ben, ça met des gens sur le carreau. Donc, c'est vraiment des choses quand même très simples pour la grande majorité de la population. On se rend compte que ces petits détails-là, bah, beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise ou ne savent pas faire, et ça provoque effectivement des situations assez catastrophiques.
Bruno est en ligne, il veut nous parler des billets SNCF, c'est ça Bruno ?
Ah, tout à fait, moi je trouve que la présence humaine, rien ne vaut une présence humaine quand on fait des démarches administratives ou même des démarches commerciales. Une présence physique, je vois par exemple à la gare SNCF de Nice, et il n'y a personne, les guichets sont fermés, les usagers sont livrés, ou plutôt on devrait dire les clients maintenant, nous sommes tout à fait livrés aux automates, et s'ils fonctionnent encore, ou si on les sait faire, et si on sait les faire fonctionner, tout va bien, mais comme Nice est une ville où il y a beaucoup de touristes, et de touristes étrangers, notamment en période estivale, ça pose beaucoup de problèmes pour l'accès au train.
Merci beaucoup Bruno.
Et j'ajouterais juste quelque chose. C'est quand même paradoxal que dans notre société où on manque d'emplois et de potentiel, les guichets s'arrêtent à 15h30 dans une ville d'une taille comme Nice.
Absolument. Et encore, il y a des guichets, parce que j'ai des messages qui m'arrivent de gens qui disent, là, chez nous, il n'y a plus rien du tout. Notamment un message qui nous parle des TER en Alsace. Certaines gares n'ont plus du tout de ni guichet ni distributeur automatique de billets. Avant de faire réagir le représentant du défenseur des droits, je voudrais demander à Laetitia Bernard à propos du, allez, tiens, le site SNCF, est-ce qu'il fait partie des sites que vous pouvez utiliser ou pas? Ou j'ai touché un point sensible?
C'est pas le pire. Je suis pas très, oui, il est pas très pratique, notamment pour les calendriers, etc. Mais c'est vrai que moi, si je vais en gare, si vous me mettez devant un automate, je suis coincée. Je peux rien faire. Je prendrai un autre exemple très concret. Le Covid, enfin, quand on faisait des tests pour savoir si on était positif ou négatif, le résultat, on pouvait pas, enfin, je ne pouvais, en y voyant pas, on n'arrivait pas à cliquer, enfin, à voir la réponse, quoi, le certificat, enfin. Et j'étais obligée.
C'est-à-dire qu'on vous envoyait un message que vous ne pouviez pas prendre connaissance.
Après, parce qu'après, en fait, il y avait des formulaires pour indiquer date de naissance, etc., etc. Et ça, on n'arrivait pas à rentrer les données dessus facilement, et en fait, même après, j'arrive pas à voir où est le code barre, moi, sur mon certificat. Je devais envoyer les messages de CID à ma mère pour qu'elle me dise ce qu'il en était. Ma mère qui, a plus de 60 ans et qui elle-même est un peu en panique avec l'informatique. Ça correspond à un témoignage qu'on avait tout à l'heure. Donc, c'était vraiment de la folie juste pour avoir le résultat de mon test Covid, quoi.
Pour un truc qui concerne la santé, ce qui est quand même pas rien. Daniela Kaczynski, là, tout à l'heure, notre auditeur Bruno disait SNCF c'est commercial. Oui, c'est commercial, mais c'est aussi ça fait partie un peu quand même des services publics de pouvoir prendre le train.
Et sur cette question de guichet, d'ailleurs, la Défenseur des droits avait été saisie l'année dernière et avait pris une décision sur des situations effectivement encore pires qu'à Nice, c'est-à-dire où non seulement il n'y a plus de guichet, il n'y a plus de bornes, et donc pour pouvoir prendre son train, il faut un smartphone, il faut qu'il soit chargé, il faut qu'on sache s'en servir, il faut qu'on ne soit pas dans une zone blanche, et il y a toute une série de petites gares qui sont notamment en milieu rural, qui deviennent, mais parfois en grande banlieue aussi, qui deviennent ce qu'on appelle des points d'arrêt non gérés, des pangs, dans lesquels il n'y a plus aucun de ces services-là. Et les personnes qui nous saisissaient, non seulement n'arrivaient pas à prendre leur billet, mais parfois même dans le train, se faisaient contrôler et verbaliser au tarif contrôle. C'est-à-dire que ça aboutissait à une rupture d'égalité et à une suspicion de fraude qui, d'après nous, est totalement contraire à l'esprit précisément du service public qui doit, encore une fois, je me répète, mais il y a des fois où il le faut, se rendre accessible à toutes et tous.
Alors, parmi les éléments, les services qui existent pour essayer de remédier à cette situation, il y a la mise en place de ce qu'on appelait avant les maisons France Service, qu'on appelle désormais les espaces France Service. Nous sommes en ligne avec une représentante de ces espaces France Service. Bonsoir Marie-Elle Souet.
Bonsoir.
Vous êtes animatrice départementale des France Service pour les Landes. Expliquez-nous en deux mots toutes les démarches que vous pouvez faire pour aider les usagers.
Alors, on répond à tout type de demandes, de démarches administratives, en étant accompagné en fait par un agent qui est formé. On peut également venir y rencontrer un partenaire de la France Service, puisqu'on a 9 opérateurs qui se sont engagés dans le dispositif. Et en général, chaque France Service va déployer aussi ses propres réseaux au niveau des acteurs locaux, que ce soit les assistantes sociales, les secrétaires de mairie ou les associations locales, pour pouvoir répondre vraiment aux besoins qui sont identifiés sur les territoires. On peut utiliser un ordinateur en libre service. En fait, ça va dépendre de votre niveau d'autonomie avec l'outil informatique, mais vous pouvez soit être seul, soit être accompagné par un agent dans votre démarche.
Et quel est le profil de ceux qui viennent vous voir ?
Alors, on a tout type de profil, nous aussi. On a toutes les tranches d'âge qui sont représentées, qui sont actives, demandeurs d'emploi ou retraités. On accueille toutes les personnes qui ont besoin d'aide dans leur démarche administrative, ceux qui rencontrent des difficultés avec le numérique, mais pas seulement. On a une majorité, c'est vrai, de personnes de plus de 60 ans, mais les jeunes, ils sont quand même pas à la marge, puisqu'ils sont très à l'aise sur un smartphone, mais beaucoup moins devant un ordinateur. Voilà, ce que je peux dire, c'est que nous, au niveau des démarches administratives, depuis le début du déploiement du réseau, il y a quand même 5 millions de démarches qui ont été accompagnées par le réseau France Service. C'est dire que ce service est quand même réellement utile pour nos habitants.
Un service qui existe aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale, ou plutôt en zone rurale ?
Alors, c'est un service qui existe un peu partout, donc en France métropolitaine et en Outre-mer, que ce soit en ville comme à la campagne. On a parmi les France Service une centaine de bus France Service qui sillonnent les territoires pour aller vers les usagers qui ont besoin d'accompagnement. Et puis on a également des initiatives locales de France Service qui créent des annexes ou des itinérances pour pallier aussi aux problèmes de mobilité. Aujourd'hui, on a à peu près 95% des Français qui ont accès à moins de 30 minutes de chez eux.
Merci beaucoup pour ces explications, Marielle Souette du réseau France Service. Daniel Kaczynski, ça veut dire que l'État, parce que là, en l'occurrence, c'est un service public, l'État a pris quand même conscience de la nécessité d'offrir un service dans certains secteurs ?
Oui, je crois qu'à l'évidence, il y a eu une prise de conscience. Hein. Et comme je le disais, ça fait partie des suites du rapport de 2019, puisque ce type d'accueil avait été préconisé par le défenseur des droits à l'époque. Et ce que décrit votre auditrice, responsable des France Services dans les Landes, correspond à ce que moi j'ai vu chaque fois que j'ai visité des France Services. Et donc, évidemment, heureusement qu'ils sont là par rapport aux difficultés qu'on a évoquées depuis le début. Mais néanmoins, souvenons-nous des chiffres, hein, plus de 10 millions de Français qui sont en difficulté. Même quelqu'un qui n'est pas en difficulté avec le numérique peut avoir peur de faire une démarche. Et la façon dont Madame décrivait les interactions montre bien que des personnes, même si elles savent manier une souris, peuvent avoir peur de se tromper dans une démarche et apprécier que quelqu'un qui les accompagne soit présent. La pérennité de ce dispositif et son efficacité dans la durée, ça va dépendre de l'engagement de tous les services publics partenaires. La CAF, les organismes de sécurité sociale, Pôle emploi, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice.
Il faut une volonté politique pour avancer, clairement.
Il faut un engagement durable des organismes pour être vraiment disponible derrière. Il ne faut pas que ce soit une barricade entre les personnes et le service public. Il faut que ce soit un point d'accès pour que les personnes ne soient pas simplement accompagnées pour faire une démarche relativement simple, mais puissent aussi dénouer leur dossier lorsqu'il y a une difficulté. Et ça suppose quand même d'avoir quelqu'un qui peut intervenir directement sur votre dossier. Ce qui n'est pas le cas des agents France Services qui font un travail formidable, mais qui n'ont pas cette prérogative-là. Et c'est ça dont aura eu besoin notre monsieur sur la NTS tout à l'heure.
Marie nous appelle également à son tour. Bonsoir Marie.
Bonsoir France Inter.
On vous écoute Marie.
Oui, alors moi je voudrais revenir un petit peu quand même sur la dématérialisation de ces procédures administratives en ce qui concerne les droits des étrangers. Alors, qu'il s'agisse des premières demandes ou de renouvellement des titres ou de régularisation de certaines situations. Depuis plusieurs années, en effet, il y a refus d'ouvrir des guichets dans les préfectures hein, et obligation de dépôt des demandes en ligne sur le site des préfectures. Alors, pour le ministère de l'Intérieur, il s'agit de simplifier les démarches, de fluidifier les échanges, etc. On n'est pas contre, bien sûr, on n'est pas contre par principe. Cette dématérialisation peut en effet éviter des déplacements, peut éviter des attentes interminables, toute la nuit, hein, autrefois devant les préfectures. Encore faut-il s'en donner les moyens et respecter les droits des personnes. Le problème est qu'il est le plus souvent, très souvent, impossible de déposer ces demandes, et cela pour trois raisons.
Alors assez vite les trois raisons, Marie, oui, si oui, vous oui. me permettez.
Parce que non-accès à Internet, ça a déjà dit. Parce que difficulté de maniement de ces procédures, problème de formation, ça a été dit. Mais il y a une autre raison. Tout simplement parce que même si on a accès à ces procédures, et c'est souvent le cas des jeunes, scolarisés, étudiants, qui savent utiliser Internet, on se heurte à non-réponse, ou plutôt toujours la même réponse. Pas de plage horaire libre, veuillez recommencer ultérieurement. Hein, et on recommence, y compris la nuit. Ça peut durer des mois, voire des années. Hein. Les conséquences sont dramatiques pour les individus qui ne peuvent pas chercher du travail, Merci. Qui ne peuvent pas chercher un logement. Cela est scandaleux au regard du droit, du respect des droits de tous. Je voudrais juste rappeler juste une petite chose, j'en ai pour deux secondes. Je rappelle que selon la loi, un récépissé doit être remis à toute personne hein, qui souscrit à une demande de titre de séjour avec avis de convocation à la préfecture dans les quelques mois. Autrement dit, là, les droits des étrangers sont vraiment...
Merci Marie, merci beaucoup pour votre appel. D'ailleurs, Daniela Kaczynski, la situation des étrangers est évoquée dans le rapport.
Oui, on l'a évoqué déjà tout à l'heure. Effectivement, il concentre le maximum de difficultés que les usagers peuvent rencontrer avec la dématérialisation, notamment dans la mesure où elle est couplée à cette absence de guichet et où elle entraîne des ruptures de droits très importantes. Alors, on a pu se réjouir que les files d'attente de la nuit devant les préfectures étaient supprimées, mais en fait, elles sont remplacées par des files d'attente électroniques et puis par les phénomènes de piratage que j'évoquais tout à l'heure. Nous, on réitère les préconisations qu'on fait au préfet. Il faut les effectifs suffisants pour traiter les dossiers et respecter le droit des personnes à voir leur dossier déposé et instruit, quelle que soit l'issue du titre de séjour. On a les mêmes difficultés sur les délais liés à la naturalisation. On sortira un rapport là-dessus la semaine prochaine. Et on insiste sur la nécessité de garantir un égal accès, quel que soit finalement le titre de séjour demandé aux étrangers, ce qui dans un certain nombre de préfectures n'est pas le cas. Et nos délégués aujourd'hui croulent sous ces demandes, avec parfois même des difficultés pour les préfectures à répondre à nos propres demandes. C'est dire qu'on est effectivement sur ce sujet-là à un niveau de difficulté encore supérieur à tout ce qu'on a pu évoquer sur les autres situations.
Et on rappelle que tout le monde peut saisir les délégués du défenseur des droits. Ça,
c'est... Absolument.
Et là, pour le coup, c'est un droit qui est garanti.
C'est un droit garanti et qui est multicanal. C'est-à-dire qu'il y a le numérique, bien sûr, mais il y a le téléphone 09 39 69 00 00 et les délégués surtout qui reçoivent en présence dans l'ensemble des départements de métropole ou d'outre-mer tous ceux qui leur demandent.
Remettre de l'humain, c'est peut-être quand même la première chose la plus importante, Laetitia Bernard.
Oui, je suis en train de faire oui de la tête, pouvoir parler à des gens. Oui, clairement.
Ça, c'est très important. Vous me disiez en préparant cette émission, il y a quand même un truc où on marche sur la tête. Les MDPH, les maisons des personnes handicapées, pour beaucoup, leurs sites ne sont même pas accessibles.
Alors, ce qui est rigolo, si vous prenez ça, alors le site des impôts fonctionne très bien pour les non-voyants, enfin tout ce qui est handicap, on peut se servir de site. Et en revanche, effectivement, des sites qui, pour le coup, sont vraiment dédiés au handicap, alors pas tous, hein, parce que ça dépend des départements, mais notamment en Ile-de-France, il y en a un où on ne peut pas avoir accès au formulaire, à ses droits, savoir exactement qu'est-ce qu'on peut ou ne pas avoir. Donc, et juste sur, au niveau des solutions, je pense de manière générale qu'il serait au niveau du handicap, qu'il serait vraiment super d'avoir des formations dans toutes les écoles de développeurs informatiques. Toutes les formations pour les développeurs informatiques devraient avoir un module de formation à l'accessibilité numérique.
Je crois qu'il y a une réclamation pour terminer. C'est Jean qui est au bout du fil. Bonsoir Jean. Allez, si vous faites vite parce qu'on est un peu en retard. Hein.
Bon, c'est très très vite. Pour moi, un des services publics les plus importants, c'est celui de la radio. Je suis tout le temps branché sur Radio France. Je suis aveugle. J'ai souvent intervenu d'ailleurs sur la radio dans des tas d'émissions. Je me mettais en direct avec Laetitia Bernard. Et là, je voudrais, s'il vous plaît, que la radio de service public française soit exemplaire. Or, ce n'est pas du tout le cas. Le site de Radio France est un vrai foutoir. On n'arrive pas à trouver ce qu'on cherche. On n'arrive pas à trouver les émissions. On vous envoie des liens même. J'ai un ami encore qui m'envoyait encore un lien hier pour écouter. Impossible à écouter. Je veux dire...
Bon, on va faire remonter, allez.
Voilà, promis. Le service public, que ça commence par la radio qu'on aime bien et qu'on écoute.
Bah, voilà. Allez, merci Jean. On va faire remonter, on va faire suivre la réclamation. Je voudrais dire un très grand merci à tous ceux qui nous ont écrit ce soir, à tous ceux qui nous ont appelés, à nos trois invités, Daniel Agacinski, du Défenseur des Droits. On peut trouver le rapport sur votre site, hein, j'imagine.
Défenseurdesdroits.fr.
Voilà. Merci beaucoup à Tom-Louis Teboul d'Emmaüs Connect et à Laetitia Bernard. Il y a des messages de félicitations qui arrivent pour vous, Laetitia. Je vous les donnerai tout à l'heure. Bah oui, c'est comme ça. Juste après les informations de 20h, Patricia Martin pour leur philo. Bonsoir Patricia.
Bonjour Claire, est-ce que je peux féliciter Laetitia aussi? Qu'est-ce que je suis contente de l'avoir, je l'adore. Vous voulez savoir c'est de quoi on va parler?
Allez.
On va parler de la primauté du vivant en compagnie de Milbourg.
Merci beaucoup. À tout à l'heure Patricia.